avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Bonjour Olivier Drapé.
Oui, bonjour.
Le thème que vous avez choisi ce mois-ci, c'est la proposition de loi sur l'aide à mourir récemment adoptée à l'Assemblée.
Tout à fait, il y a deux propositions de loi, je le rappelle, qui le 25 février ont été votées. La première sur les soins palliatifs à l'unanimité, si ce n'est que les députés LFI se sont abstenus, mais n'ont pas voté contre. Et une autre qui concerne l'aide à mourir, en réalité le suicide assisté et l'euthanasie, qui elle a fait l'objet d'un vote beaucoup plus serré finalement que ne l'imaginaient les partisans de ce texte, car, sauf erreur de ma part, il y a eu 299 pour et 226 contre. 226 députés ont voté contre, ils étaient 199 le 27 mai dernier en première lecture. Ça montre que finalement la méfiance ou la défiance à l'égard de cette proposition de loi sur l'aide à mourir ne fait que qu'augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Bon. La conférence des évêques de France, comme d'ailleurs notre évêque de son côté, ont réagi. La conférence des évêques de France, dans un communiqué du 27 février, dans lequel je lis entre autres, la conférence des évêques de France rappelle avec force que donner délibérément la mort ne saurait constituer un progrès humain. Elle compte sur la suite du processus parlementaire pour réaffirmer qu'une société véritablement fraternelle se reconnaît à la manière dont elle entoure les plus fragiles et non à la facilité avec laquelle elle accepte de provoquer leur mort. Le fait est que le processus n'est pas terminé, il va falloir, à partir de début avril, que le Sénat de nouveau examine ce texte, qui ensuite reviendra encore à l'Assemblée nationale, et il y aura donc divers allers-retours entre Assemblée et Sénat dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, ce problème me tient à cœur, j'y suis souvent revenu, pour différentes raisons, mais entre autres parce que il me semble que la clé du problème de la fin de vie réside bien davantage dans le développement des soins palliatifs que dans une prétendue aide à mourir qui est encore une fois synonyme en fait de suicide assisté et d'euthanasie. Je rappelle tout simplement que la Cour des comptes, dans un rapport de juillet 2023, avait insisté sur le fait que moins de la moitié des besoins étaient pourvus en matière de soins palliatifs, malgré le vote de plusieurs lois depuis 1999. Alors, il n'est même pas certain que le vote de la proposition de loi sur les soins palliatifs le 25 février améliore beaucoup la situation, car c'est une question de moyens financiers. Il faudrait joindre le geste à la parole, et on a l'impression qu'au niveau des moyens financiers, ça coince. Et c'est d'autant plus scandaleux que dans la quasi-totalité des cas, comme le confirment tous les médecins et notamment les personnes, et parfois les bénévoles aussi en centre de soins palliatifs, dans la quasi-totalité des cas, les malades qui expriment le désir d'en finir ou demandent à être euthanasiés changent d'avis dès lors qu'ils sont convenablement pris en charge. Ce que on a bien souvent malheureusement tendance à oublier. Alors, je sais bien qu'on nous parle d'un nouveau droit ou d'une liberté individuelle fondamentale, l'ultime liberté, disent les partisans de l'euthanasie, mais enfin, je me réfère à quelques déclarations qui me paraissent intéressantes. Celle de Philippe Juvin, qui est un médecin et un député opposé à ce texte. Que signifie la liberté lorsque l'individu vit dans la solitude, la souffrance ou le manque de soins? Patrick Hetzel, un autre député à l'Assemblée nationale il y a donc quelques jours, peut-on parler de libre choix quand l'accès aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires? Peut-on parler de libre choix quand des familles cherchent parfois désespérément une place en unité spécialisée? Peut-on parler de libre choix quand la douleur physique, la détresse psychologique ou la solitude ne sont pas correctement prises en charge? Ça me paraît effectivement tout à fait fondamental. Il me semble que la clé du problème est en grande partie, essentiellement, dans ce développement des soins palliatifs, à condition, bien entendu, d'en avoir la volonté politique et d'y mettre les moyens économiques et financiers. Je suis également frappé par un certain nombre de contre-vérités qui concernent le vote de cette loi, comme lorsqu'on nous dit par exemple que cette loi n'impose ni n'enlève rien à personne, ce qui est faux. La liberté pour certains de demander la mort entraînera nécessairement pour d'autres, en particulier bien sûr les soignants, les médecins, les professionnels de la santé, la nécessité de donner la mort, y compris d'ailleurs pour les pharmaciens auxquels on refuse la reconnaissance d'une clause de conscience, mais qui seront bien contraints de préparer et de fournir la substance létale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Ordre des médecins, le 10 février dernier, dans un communiqué, a rappelé, je cite, « Si les travaux législatifs devaient aboutir à l'adoption d'un droit à l'aide à mourir, l'Ordre des médecins maintient être défavorable à l'administration d'un produit létal par un médecin. » Alors que, qu'en est-il plus précisément de ce texte, encore provisoire, mais qui a été voté à l'Assemblée nationale de façon solennelle, qu'on nous présente comme une loi d'équilibre et de compromis, qu'on nous dit assortie de solides garanties et strictement encadrée, ben, qu'en est-il ? En fait, je crois que Grégoire Pupin, qui est un juriste, n'a pas tort de faire ce commentaire. Cette loi serait en réalité, si elle était adoptée, la plus permissive, la plus expéditive et la plus répressive au monde. Ça paraît sévère, mais ce jugement me paraît tout à fait fondé. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la procédure du suicide assisté ou de l'euthanasie est très expéditive. Le délai de décision et de réflexion est extrêmement court. Une euthanasie pourrait être en fait réalisée en une semaine. Le médecin doit simplement se prononcer sur la demande d'un patient dans un délai maximal de 15 jours, mais il n'y a aucun délai minimum qui est fixé. Une décision pourrait donc prise en fait pourrait être prise en moins de 3 jours, c'est-à-dire que un patient exprime cette demande, il a donc 2 jours de délai de réflexion et le médecin ensuite peut tout à fait procéder à l'euthanasie. En Belgique par exemple, pays pourtant très libéral ou laxiste comme on veut en matière d'aide à mourir et d'euthanasie, le délai de réflexion est d'un mois. Alors, ensuite, cette procédure ne nécessite même pas une procédure écrite, elle peut être faite oralement. La famille ou les proches n'ont pas nécessairement à être prévenus et de toute manière ne disposent d'aucun recours contre cette décision que le médecin donc valide. La procédure est donc effectivement extrêmement expéditive et permissive. Les critères d'éligibilité, quant à eux, qu'on nous présente comme une garantie solide, sont pour le moins permissifs, flous et subjectifs. Contrairement d'ailleurs à l'impression que ça peut donner quand on développe un petit peu les différents critères en question, c'est-à-dire effectivement un pronostic vital en phase avancée, le discernement du malade ou du patient, des souffrances constantes. En réalité, ce sont des critères qui sont extrêmement flou dans la mesure où ils sont subjectifs. Ils ne s'adressent pas uniquement aux personnes en fin de vie. Les gens se trompent en croyant que ce texte est un texte pour aider des personnes qui n'ont plus d'autre recours que l'euthanasie ou le suicide assisté en fin de vie. Car en réalité, ces critères sont tels que des personnes ayant encore plusieurs années à vivre, mais qui sont atteints effectivement d'une maladie grave, incurable, avec un pronostic vital en phase avancée, et qui disent souffrir. Donc cela représente en réalité, par an, cela pourrait représenter quelques centaines de milliers de personnes en réalité. D'ailleurs, Mgr Hayet le dit dans un communiqué qu'il a donc publié le 23 février, juste avant le vote de la loi, l'aide à mourir serait ouverte aux patients atteints atteints d'une maladie grave et incurable au stade avancé ou terminal, qui ne sont pas nécessairement en fin de vie, soit plusieurs centaines de milliers de personnes potentiellement éligibles, par exemple un diabétique, un malade d'Alzheimer, quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale chronique ou atteinte du VIH, le sida, pourrait être éligible pour suicide assisté ou euthanasie, y compris d'ailleurs les personnes atteintes de troubles psychiques ou les personnes sous tutelle ou les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou les personnes même porteuses de déficiences intellectuelles, car tous les amendements qui visaient à exclure ces catégories-là de l'éligibilité ont malheureusement été rejetés à l'Assemblée nationale. Philippe Juvin, qui est médecin, le député Philippe Juvin, a beau jeu de dire « les majeurs assistés, c'est-à-dire les personnes sous tutelle qui ne peuvent pas signer de chèque, pourront néanmoins signer pour le suicide assisté », ce qui est un petit peu aberrant. Alors, tout cela montre à quel point, effectivement, le fait de s'affranchir d'un interdit fondateur qui est le fondement même de la civilisation et de la vie en société et de la protection des personnes les plus vulnérables, tu ne tueras pas, le fait de s'en affranchir fait qu'il n'y a plus aucune limite qui peut tenir. Un autre exemple d'ailleurs, les différents établissements de hôpitaux, maisons de retraite qui refusent jusqu'à présent de pratiquer l'euthanasie seront contraints d'accepter l'euthanasie dans leur enceinte car les amendements qui visaient à leur donner une clause de conscience ont été refusés, si bien qu'un établissement catholique dont la charte est le respect de la vie sera tenu soit d'accepter l'euthanasie ou le suicide assisté, soit de mettre la clé sous la porte. Ce qui sera dramatique vu l'état déjà du système de santé en France. L'expérience des pays étrangers démontre d'ailleurs par ailleurs que les prétendus garde-fous, dès lors qu'on s'affranchit de l'interdit fondamental de tuer, ne sont qu'une illusion. Il faut tout de même rappeler, c'est ce que fait Mgr Hayet aussi dans son communiqué, que en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, où l'euthanasie devait être rigoureusement encadrée, eh bien, aujourd'hui, elle est accessible aux mineurs, voire aux enfants, aux personnes handicapées, aux malades mentaux, à certaines personnes âgées ou simplement dépressives, dont le pronostic vital, bien évidemment, n'est nullement engagé, ni de manière avancée, ni de manière imminente. Et puis que dire de la pression insidieuse qui ne manquera pas de s'exercer pour des raisons économiques et financières, d'abord sur les personnes qui seront vues, perçues comme représentant un coût exorbitant pour la collectivité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Monsieur François Braun, ancien ministre de la Santé, médecin urgentiste d'ailleurs, le dit bien. Il sera demain plus facile d'accéder à l'euthanasie qu'à une unité de soins palliatifs. Considérablement plus facile, j'ose le dire, mais il sera aussi infiniment moins onéreux pour la collectivité de proposer le suicide assisté ou l'euthanasie que de développer les soins palliatifs. Voilà. Alors, dans ces conditions-là, Mgr Hayet avait raison de me prévenir à propos de la situation des plus fragiles et des plus vulnérables, les personnes handicapées par exemple, que la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté conduirait immanquablement à se demander à ces personnes si elles ne sont pas de trop ou si leur vie vaut encore la peine d'être vécue. Il n'y a donc qu'une seule alternative, je le crois, celle que propose d'ailleurs le cardinal Robert Sarah qui nous dit récemment, en parlant des soins palliatifs, « À la fin du chemin sur la terre, les hommes n'ont pas besoin d'une seringue froide qui vienne donner la mort, ils ont besoin d'une main compatissante et aimante, mourir dans la dignité, c'est mourir aimé, tout le reste est mensonge. »
Olivier Drapé, merci beaucoup. Pour rentrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescarré et Oloron, un numéro de téléphone, le 05 33 06 96 82.